Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques. Et ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendue.
Ah ! Tu nous as manqué.
Oui, et je t'avoue que j'ai même pas écouté le dernier épisode.
J'étais sûre ! J'allais te le demander.
Mais en fait, il s'est passé quelque chose de très important dans ma vie cette dernière semaine. La Star Academy a repris et depuis je n'ai plus de vie.
Je comprends parce que moi aussi les podcasts où je participe pas, je les écoute genre 2 ans après, alors que je suis intéressée et tout, mais enfin.
Oui. C'est juste que c'est pas le bon moment.
C'est ça.
Je vais avoir ma phase histoire de l'art, je pense dans un mois, ça va me reprendre avant Noël. Je serai bien.
En tout cas, on a reçu plein de petits messages mignons sur Insta, principalement parce que c'est surtout sur Insta que je vais, désolée, pour dire que pour de gens qui aimaient bien le format, et du coup ça me fait plaisir,
oh,
parce que j'avais un peu peur que les gens disent, enfin, je sais pas, que ça leur plaise pas quoi, forcément vu que c'est un truc un peu nouveau.
Oh mais je pense qu'au contraire les gens ils aiment bien la nouveauté. Dites-nous.
Ouais. Ça. Mais c'est un petit peu plus intello que d'habitude parce que on demande à des gens qui s'y connaissent.
Oui, pour une fois, on a des experts. Est-ce que du coup, maintenant, c'est un podcast semi-expert ?
C'est ça. Et du coup, pour cet épisode pas du tout expert, de quoi tu vas parler ?
Je vais parler d'un sujet. Tu m'as soufflé comme si on était à un contrôle et que j'avais pas d'idée. Qui est les couleurs dans la magie.
Ah,
trop bonne idée.
Oui, c'est quelqu'un qui nous l'a soufflé. J'ai plus son nom.
C'est vrai. Zut. Trop bien, merci.
Ouais, c'était merci, quelqu'un personne. Sur Insta qui a donné l'idée. Et comme c'était une idée géniale, je te l'ai relayé.
Merci beaucoup.
Je suis très contente.
Ça m'a inspirée.
Parce que quand elle a donné l'idée, j'ai ah, mais je veux carrément que Marion le fasse ça.
Moi aussi, ça m'a inspiré beaucoup parce que en plus, je suis très visuelle. J'adore les images. C'était vraiment parfait. Et toi, Louise, tu vas nous parler de quoi ?
Eh bien, moi, je vais faire un rectificatif d'une erreur que j'ai faite dans un épisode précédent. Mmh. Puisque, si ta mémoire est très bonne, dans l'épisode 8,
non.
Je t'avais raconté l'histoire de Miché Chaudron, qui est la
oui
dernière sorcière exécutée en Europe. Sauf
c'était
que.
C'était pas la dernière.
Et non, pas du tout. C'était la dernière sorcière exécutée à Genève, pas du tout en Europe.
Ah.
Donc cette fois, je vais te parler.
C'est un peu triste, du coup.
Cette fois, je vais te parler d'Anna Goldie.
La vraie dernière.
Et ben, du coup, je ne m'avance plus.
Ok, bon, en tout cas, elle a été exécutée.
En tout cas, elle est présentée cette fois par plein de sources comme la dernière sorcière exécutée en Europe.
Ok.
Mais Miché Chaudron, je me suis emballée. En plus, j'ai regardé un peu les sources que j'avais prises la dernière fois. Et effectivement, c'est la dernière sorcière exécutée à Genève et pas en Europe. Mais son cas était hyper intéressant parce que, comme il a été beaucoup documenté, ça permet de bien comprendre comment se passaient les procès pour sorcellerie à l'époque et toute l'injustice qu'il y avait derrière.
Dans tous les cas, on vous renvoie vers l'épisode en question.
Voilà.
Je ne sais pas lequel c'était.
8, épisode 8.
Oh,
j'ai pas du tout dû faire
longtemps.
La recherche. Ouais. Et ben j'y vais.
Parti.
Du coup, on est toujours en Suisse, par contre. C'est
un pays verdoyant.
Voilà, donc c'est le même pays, mais c'est plus d'un siècle après.
Ok. Ah ouais.
Et donc,
attends, plus d'un siècle après, c'est-à-dire qu'on est où, on est quand là ?
Alors, Anna Goldie, dont je vais te parler, elle est née en 1734.
D'accord.
Donc, je dis Anna Goldie, mais on trouve aussi Anna Goldin ou Goldin, je ne sais pas comment on prononce. Il y a plusieurs versions qui existent de son nom. Comme j'ai, enfin, dans les ressources en français que j'avais, c'était souvent Anna Goldie qui était utilisée. J'ai gardé Anna Goldie.
Très jolie Goldie en plus.
Ouais. Donc, comme je te disais, elle est née en 1734. C'est donc en dehors de la Renaissance, après le pic des chasses aux sorcières.
Ouais, c'est assez tard. Hein.
Ouais, bah oui, comme je disais, c'est plus d'un siècle après Michel Sodron. C'est quand même assez tard.
Ça devait être un peu sporadique à cette époque-là, les exécutions.
Évidemment, ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est la dernière, parce que c'est vraiment. Ouais. Ça s'est étiré.
C'était remarquable, quoi, dans le temps.
Par contre, ce qui est surprenant, c'est que vous allez pouvoir constater que l'histoire d'Anna Goldie, il y a beaucoup de similitudes avec les procès des siècles précédents. Et ça peut rappeler celle de Michel Chaudron, par exemple.
Ah, on ne change pas avec une équipe qui gagne.
Donc, comme d'habitude, ça va être très joyeux et une belle histoire à écouter le soir avant d'aller se coucher.
Yes.
Pas du tout.
J'ai hâte.
Donc, Anna Goldie, elle vient d'une famille pauvre. Déjà, ça commence mal pour elle. Et à 18 ans, elle va devenir domestique pour le presbytère de sa ville avant d'aller travailler pour un employeur particulier. Donc, okay. Elle commence à travailler quand même assez jeune. À 28 ans, elle va rencontrer un homme duquel elle va tomber enceinte. Et ce gros naze va l'abandonner sans l'épouser.
Oh l'enfoiré.
Du coup, elle va accoucher seule d'un enfant qui va décéder peu de temps après sa naissance.
Oh non, c'est trop triste en plus.
Ouais, je vous avais dit que ça allait être réjouissant.
Pauvre Anna Goldie.
Les décès peu après la naissance des enfants, c'est assez courant malheureusement au XVIIIe siècle.
Ouais.
Donc il n'y a pas grand-chose de surprenant là-dedans. Mais pourtant, on va avoir une voisine d'Anna Goldie, qui va accuser celle-ci d'avoir tué son enfant. Et okay. Anna Goldie va être condamnée et mise au pilori.
Mais enfin,
pour la mort de son enfant. Donc, mais elle se fait abandonner, son enfant meurt, et en plus, elle est mise au pilori.
Oh là là, la pauvre dame.
À 28 ans. Elle sera libérée suite à cette punition. Et comme elle est un petit peu traumatisée, j'imagine, elle va partir de la ville où elle était et naviguer dans plusieurs petites villes où elle travaille un petit peu avant d'aller vers un autre endroit, et surtout des petites villes. On voit que probablement elle essaye d'éviter les grandes foules, surtout suite
les
à une condamnation.
Humains.
Aussi. À 34 ans, elle va devenir domestique pour une riche famille de la ville de Molis. Donc, on est en Suisse, comme je vous le disais tout à l'heure. Et elle va avoir une liaison avec le fils du pasteur de Molis et tomber à nouveau enceinte.
La tuile.
Sauf que le fait qu'elle soit enceinte du fils du pasteur sans être mariée fait que le pasteur et sa femme vont plutôt s'opposer à cette liaison, et du coup ça va mal se passer pour Anna.
J'aime bien l'ajout du plutôt. Bon, pas trop, d'accord.
Elle ne pourra pas épouser le fils du pasteur, et en plus malchance s'ensuit, elle perd à nouveau son enfant.
Oh, le sort, ça.
Youpi, youplala, c'est toujours pas fini. Elle a cette fois 46 ans et elle rentre au service d'un médecin qui s'appelle Johann Jacob Tschudi. Il est marié et il a 5 filles.
Les 5 filles du docteur Johann. Voilà, c'est ma participation.
Merci, Marie. Je suis sûre que les gens se disent « Ah, elle nous avait manqué ». Johann Tschudi va entretenir une liaison avec Anna. Ça, c'est sa version à lui. La version d'Anna, elle est vachement moins consentante.
Oh non.
Et l'histoire, cette fois, on rentre dans l'histoire qui va nous intéresser présentement, par rapport à notre podcast sur les sorcières. Et ça commence en octobre 1781. En 1781, il y a la plus petite fille de la famille Tschudi qui trouve une aiguille dans son bol de café au lait.
Mais ça n'arrive pas, ça, comme situation.
Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas l'aiguille, c'est plutôt le fait qu'un enfant de 8 ans boit du café au lait.
Ah, si, ça se faisait beaucoup à l'époque.
Ah, mais l'énergie d'un enfant de 8 ans rajoute pas de
Bah,
caféine.
surtout si c'était un peu des riches, ça veut dire que t'as les moyens d'acheter du café.
Ah ouais.
Et que tes gosses aussi en boivent.
Déjà, c'est plutôt alarmant. Et en plus,
Ouais.
l'incident va se reproduire le jour d'après. L'enfant trouve à nouveau une aiguille dans son bol de café au lait. Du coup, les parents vont tout de suite accuser leur domestique d'négligence, voire même d'avoir volontairement placé une aiguille dans la boisson. Mais...
Enfin, quel aurait été son motif pour faire ça?
Alors, il y aurait eu une histoire où la mère aurait surpris Anna Goldie en train de disputer la petite qui jouait de manière un peu très énergique et qui lui aurait sauté sur le dos. Et donc Anna Goldie
Wow.
l'aurait disputée en lui disant il faut pas sauter sur les dos des gens. Enfin, j'imagine pas du tout comme ça, mais en gros, il y aurait eu une histoire où la
On voit
mère
que
aurait
t'as
vu.
vraiment une expertise sur le sujet.
Bah, c'était pas. J'ai trouvé qu'une source qui parlait de ça, donc je l'avais pas écrit.
Mais sur le sujet
Mais
des enfants, je veux dire, en tant
ah
que
oui,
personne très autoritaire, il faut pas trop sauter sur le dos des gens. C'est
ça se fait
pas
pas.
un truc recommandé.
Après, enfin vraiment une, enfin la domestique de la famille qui engueule l'enfant qui est pas sage. Enfin, moi je trouve ça un peu normal, mais
Ouais,
apparemment
bon.
ça se faisait
Les
pas.
payer pour ça, j'imagine.
Malgré le fait qu'il confronte Anna Goldie sur ces histoires, l'incident va continuer à se reproduire. Et donc, comme leur enfant n'arrête pas de trouver des aiguilles dans son bol de café au lait, les Tschudi vont renvoyer Anna Goldie. Anna Goldie, ça lui plaît pas trop d'être renvoyée. Et du coup, elle va aller porter plainte auprès du bailli de la ville. Alors, le bailli de la ville, c'est le représentant local de l'autorité.
Ok, j'allais te demander.
Et du coup, elle porte plainte pour à la fois le licenciement qu'elle trouve abusif et aussi pour les agressions sexuelles dont elle était victime du Jacob, j'ai déjà oublié son nom de famille, de Jacob Tchoudi.
Ok.
Non, Johann
Allez,
Jacob
voilà,
Tchoudi. Il a trop de prénoms. Donc, ouais, c'est assez rare pour l'époque.
Ouais.
Sauf que déjà qu'aujourd'hui le système judiciaire n'est pas très efficace sur ces questions, je te laisse imaginer comment ça se passait à l'époque.
Ouais.
On va surtout avoir le bailli de la ville qui, en fait, il sait pas trop quoi faire de cette plainte. Pour lui, c'est pas assez sérieux pour que ça soit son affaire à lui, et du coup, il va plutôt la renvoyer vers le prêtre. Et
Okay.
donc, Anna va aller raconter son histoire au prêtre de la ville, qui va lui dire gentiment d'arrêter de se plaindre.
Il va lui dire, vous faites 15 Ave Maria.
Voilà. En gros, il va lui dire c'est pas grave, tais-toi et laisse-nous tranquille. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Johann Jacob Tschudi, donc le monsieur, il est médecin, donc il fait partie de la haute
Ouais,
société,
il a une
entre
certaine
guillemets.
autorité.
Le prêtre est lié, alors je crois qu'il est lié à la femme de Jacob Tschudi, c'est sa cousine ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de l'appeler Jacob alors que c'est son deuxième prénom, c'est pas son prénom.
One.
Johan. Et donc il y a aussi des intérêts plutôt personnels de faire en sorte que Anna ne porte pas plainte. Surtout pour des accusations d'agression sexuelle pour le médecin. En contestation de tout ça, Anna va fonder la CGT.
Pardon?
Non, c'est pas vrai. Mais elle en aurait peut-être eu besoin vu le
Il y a toujours
licenciement abusif.
partie de moi qui suis prête à croire n'importe quoi.
La CGT a été fondée ensuite par
Je ne
une
sais
femme
pas comment la
accusée.
CGT a été fondée. Pourquoi pas l'IS?
Non, par contre, pour la suite de l'histoire, Pendant ce temps-là, pendant que Anna essaye de porter plainte pour cette affaire, l'état de la petite Choudi va s'aggraver. Elle va vomir du sang et des aiguilles. Elle va avoir des crises de convulsions,
Inquiétant ça, non?
de la fièvre, elle délire, elle est paralysée d'un pied pendant un moment. Et son père, je vous le rappelle, est médecin et il n'arrive pas à la soigner. Et donc ça aussi, ça peut être un déclencheur du fait
Ouais.
qu'ils vont accuser Anna de sorcellerie, c'est que lui, ça lui sape son autorité de dire « je suis médecin, je ne sais pas soigner mon propre enfant ».
Donc, c'est
La
pas que je suis
solution...
incompétent ou qu'il y a un autre truc derrière, c'est que forcément, c'est de la sorcellerie.
Voilà, la solution la plus simple, c'est d'accuser Anna de sorcellerie. Et du coup, on va émettre un mandat d'arrêt contre elle, où elle est décrite dans ce mandat d'arrêt comme ayant environ 40 ans, une stature large et grande, à l'allure épanouie et rougeaude, des cheveux et des sourcils noirs, avec des yeux gris un peu malsains.
C'est horrible!
Moi, j'aime
Ça veut
beaucoup la
dire quoi des
description
yeux
des
malsains?
yeux un peu malsains.
Mais juste un peu, pas malsain.
Même si elle s'est éloignée de la ville, elle va être retrouvée et arrêtée. Et procès de sorcellerie habituel, on va la torturer, elle va admettre avoir pactisé avec le diable. Et forcément, s'ensuit une condamnation. Là, ce qui est assez surprenant, comme je vous disais, c'est qu'on n'est plus du tout à la Renaissance, on est au siècle des Lumières.
Ouais.
Et à cette époque, les charges de sorcellerie, elles sont plus courantes. La plupart des législations ont même écrit des arrêtés pour qu'on arrête de condamner des personnes pour sorcellerie. Du coup, Anna, elle va être jugée pour empoisonnement et être condamnée à être décapitée. Et c'est en fait la condamnation à mort qui est surprenante parce que à cette époque, un empoisonnement n'imposait pas la peine de mort, surtout que la petite, elle n'est pas morte, donc c'est plus une tentative d'empoisonnement. Donc c'est assez surprenant et
Surtout,
en
c'est pas
plus...
quoi, est-ce qu'elle l'aurait empoisonné? Personne ne crache des aiguilles, en fait.
Et en plus, c'est pas le tribunal de la ville qui va juger l'affaire, mais le conseil de l'église protestante. Donc en gros, c'est une grosse magouille pour faire un procès officieux de sorcellerie en respectant... la réglementation de l'époque, mais en faisant quand même ce qu'on veut entre nous dans notre petite ville. Du coup, comme je disais, elle va être condamnée à mort. Je vais vous passer les descriptions de torture qu'elle a subies parce que j'ai pas envie de raconter ça. On est déjà assez déprimé comme ça. Et elle est décapitée devant une foule le 13 juin 1782. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette affaire, elle va être médiatisée par deux journalistes allemands. Et le fait qu'ils vont relater cette histoire va choquer dans toute l'Europe. Et c'est là qu'on voit la différence entre le procès de Michel Chaudron ou des accusés des grandes chasses aux sorcières. C'est que les imaginaires collectifs ont pas mal changé et la morale a évolué. Et du coup, bah, même s'il y a toujours des personnes qui utilisent la sorcellerie pour se débarrasser des personnes qui les arrangent pas, l'opinion publique trouve ça vraiment pas très cool.
Ouais, il y en a vraiment d'autres qui sont pas d'accord et qui même ont envie de le médiatiser.
C'est ça. Il y a...
C'est vraiment le siècle des décapitations, le 18e. C'est à la mode.
Le siècle des Lumières.
Bien sûr, on est ébloui. Ébloui par la lame du couperet.
Gros saut dans le temps, en 2006, c'est encore un journaliste qui intervient dans l'histoire, Walter Hauser, qui va s'intéresser à nouveau à cette affaire. Et grâce au travail journalistique qu'il va faire autour de l'histoire d'Anna Goldie, il va réussir à faire en sorte qu'en août 2008, Anna Goldie soit enfin acquittée, officiellement.
Oh, c'est beau ça, par contre.
Ouais, c'est assez chouette. C'est assez chouette aussi de voir que y a eu tout un traitement médiatique autour de cette affaire pour faire en sorte Bah, pour essayer de redonner un peu de justice dans cette histoire où il n'y en avait pas beaucoup.
Puis de voir que les gens en ont quelque chose à faire, tout simplement. Plus aujourd'hui qu'à l'époque même.
Ouais, à l'époque, c'était un peu plus difficile, je pense, de pouvoir faire acquitter
Et
après
puis,
un
il n'y
procès
avait
qui
pas la
vient de
même
passer, quoi.
portée médiatique aussi qu'aujourd'hui. C'était
Aussi, oui.
pas aussi courant de savoir pour toutes les catégories de population ce qui se passait un peu dans le monde.
Et puis, comme je disais, le fait qu'elle ait été accusée par une personne qui était médecin, qui connaissait bien le prêtre, qui, du coup, son autorité était remise en question, et surtout, il voulait étouffer les histoires d'agressions sexuelles, ben, si tu t'opposes à sa condamnation, faut aussi que tu t'opposes à tout ça et que tu t'opposes à une figure autoritaire et tout un réseau autoritaire de la ville. Donc c'est un peu plus compliqué de le faire à
C'est
l'époque que de le
compliqué.
faire en 2008. Si la vie d'Anna Goldie vous intéresse, un livre qui a été publié assez récemment d'Evelyn Hassler, qui raconte son histoire et qui a été adapté en film dans les années 90. Je
Ah,
dis
trop
assez
bien.
récemment, mais c'est les années 90.
Oui, c'est quand même récent.
C'est récent sur l'histoire d'Anna Goldie. Vous pouvez aussi écouter un épisode de l'émission de France Inter, Autant on emporte l'histoire, qui raconte cette histoire, que j'ai commencé à écouter, qui était très bien. Et j'ai dû le mettre en pause parce que je faisais autre chose. Et c'est quand j'ai lancé l'enregistrement de cet épisode que je me suis rendu compte que j'avais jamais écouté la fin. Ça
Hey!
fait une semaine qu'il est en pause. En tout cas, le début est vachement chouette.
Bah, tu nous raconteras quand tu auras écouté la fin, du coup.
Voilà. Et enfin, si vous vous rendez à Molise, donc la ville où a eu lieu ce drame en Suisse, et il y a un musée qui est consacré à l'histoire d'Anna Goldie.
Bien.
Voilà. Qui a été ouvert à peu près à l'époque où elle a été acquittée grâce au travail du journaliste.
C'est beau.
Ouais, c'est une histoire assez horrible, mais il y a des choses un petit peu plus positives qu'on a réussi à en faire à la fin.
Ouais. Ce qu'il faut
Au
se
moins un
dire.
travail de mémoire et de réhabilitation.
Et d'éducation pour plus que ça se reproduise à l'avenir.
Ouais. Mais du coup, c'est aussi intéressant de voir que bah, les procès de sorcellerie, ils sont pas tant liés parce qu'on pense souvent que c'est l'Église ou l'État qui a fait les procès de sorcellerie, mais c'est aussi beaucoup les habitants des régions et les personnes propres.
Des particuliers.
L'Église et l'État, ils avaient souvent donné les idées, la morale qui fait qu'on pouvait accuser des personnes de sorcellerie, mais c'est pas eux qui pointaient le doigt et c'est pas eux qui entraînaient le truc le plus
C'est des
souvent.
particuliers qui se servaient de cette
C'est ça.
morale et ces lois.
Ce qui arrangeait bien l'Église et l'État pendant une période, mais on peut voir qu'à partir du moment où ça les arrange plus, ben, du coup, on va avoir de moins en moins de procès de sorcellerie. Voilà.
Eh bah.
Remets-nous un peu de couleur dans nos vies.
Oui, alors. Alors, je vais parler des couleurs et de la symbolique des couleurs dans la magie. Déjà, question. Toi, Louise, c'est quoi le premier truc auquel tu penses en termes de couleurs et magie? À quoi t'as pensé en premier quand t'as lu le sujet et que tu me l'as envoyé?
Et ben moi je te dis qu'il fallait que tu me fasses un truc sur le violet.
Ah tu seras ravie de savoir que sur mon petit document, j'ai mis le titre en violet.
Alors
Mais
pour
oui,
le
on va
contexte, c'est
pas mal en
parce
parler.
que c'est ma couleur préférée
Oui.
et que je parle beaucoup de cette couleur et que j'achète plein de trucs de cette couleur et que c'est
Louise
une
est ce
couleur
qu'on
qui est
appelle une
souvent
purple
associée à
lady.
la magie. Oui, alors le
Tout à
violet
fait.
foncé, hein, pas le truc lavande, ça j'aime pas.
Moi, j'adore. C'est mon violet préféré, je pense. Et oui, j'y ai pensé aussi au violet. Mais le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as parlé de ça, c'est l'usage des bougies en magie. Parce qu'en plus, ça se vend pas
Ah
mal
oui,
ces temps-ci,
ouais.
des petites.
Et t'en avais déjà parlé de quand tu parlais des
Oui,
rituels, de quelle couleur de bougie choisir.
Bon, en fait, c'est vraiment le truc le plus accessible, je pense, parce que déjà, c'est cool d'allumer des bougies, c'est cool d'allumer des bougies de couleurs différentes et tout. Donc, c'est un truc qui plaît généralement aux gens. Et c'est pour ça que ça marche bien. Il y a pas mal de boutiques qui proposent des espèces de petites bougies magiques avec des lots de bougies vertes pour
Eh
tel
bien,
truc et des bougies
justement, j'en ai
violettes
chez
pour
moi des petites bougies rituelles violettes que j'ai jamais allumées parce
d'autres.
qu'elles sont belles et que ça me ferait mal au cœur de les voir fondre.
C'est vraiment un truc que je n'ai jamais compris. Les amateurs et amatrices de bougies. C'est le fait de ne pas allumer une bougie.
Bah, il y a un peu de ça et il y a aussi du fait qu'elles sont vraiment toutes fines et je n'ai aucun bougeoir qui me permettrait de les allumer.
Faudrait que tu puisses faire fondre un petit peu de la cire et la coller quelque part. Coller
Ouais, mais ça me fait
la
peur.
bougie sur un petit plat.
J'ai pas envie de foutre le
Oh.
feu à mon appart.
Mais non, tu vas pas foutre le feu. Mais sur une
Ouais.
assiette.
Je suis pas courageuse, Marion.
Pas être courageuse, ça s'appelle être inconsciente, Louise.
Ouais,
Comment on peut le faire? C'est dans nos gènes. Bref, du coup, c'est assez courant quand on fait des recherches sur la magie, sur les rituels, que ça revient toujours dans la liste des ingrédients, tel objet de telle couleur, telle bougie de telle couleur qui est demandée. Et en fait, plus tu fais le tour de toutes les pratiques magiques, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est comme ça partout. Dans chaque discipline, parce que ces pratiques s'appuient sur une culture principalement orale et fatalement des symbolismes. On en revient toujours à la même chose. Et du coup, qu'est-ce qui évoque de manière hyper simple et quasiment instantanée des symboles et des valeurs? Bah, les couleurs, ça
la
marche trop trop bien.
couleur.
Parce que c'est pas compliqué et ton cerveau, il le reconnaît tout de suite et tu n'y penses même pas. C'est totalement inconscient. Du coup, je vais pas mal parler de la symbolique des couleurs. Et ensuite de comment elles sont utilisées en magie. Et je ferai un petit focus sur le marketing actuel de tout ce qui est brandé magie sorcellerie, parce que c'est un cas très intéressant, je trouve.
OK.
Parti. Alors, la symbolique des couleurs, déjà, bah, elle dépend forcément de l'histoire de ces couleurs à un endroit donné, donc à une culture. Donc, bah, encore une fois, j'ai parlé de la symbolique occidentale des couleurs, parce que c'est celle de là où on habite et que je ne connais pas les autres. Enfin, si, je sais juste que en Inde, on s'enterre en blanc et qu'en Chine, on se marie en rouge. Mais c'est pas une base solide
Ça
de
fait,
connaissances.
ouais, j'allais dire, ça fait pas grand-chose pour pouvoir
Oui, non.
en parler.
Du coup, de manière générale, je ferai un petit tour des couleurs et aussi de comment elles sont particulièrement associées à la magie. Et pour ça, je me suis servi de trois livres. Il y a Le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau et Dominique Simonet. C'est un tout
Ah,
petit livre,
Michel.
effectivement, mais il y a eu ensuite des tomes qui ont été sortis par couleur. Je crois qu'il n'y a que les couleurs primaires, par contre. Et ensuite, je me suis servi du grimoire Witch Please de Jack Parker, parce que comme c'est un ouvrage de référence, c'est vraiment une sorte de petite encyclopédie de la sorcellerie, c'est à chaque fois, c'est pas développé, mais il y a un peu tout. Donc c'est super bien. Et le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guirbrandt, le livre avec le phénix qui brûle dessus. Alors, du coup, je vais commencer par les couleurs primaires et par le jaune. Parce que c'est pas la plus aimée des couleurs. Est-ce que toi t'aimes bien le jaune?
Oui, ça, quand j'étais petite, c'était ma couleur préférée. Pas forcément parce que j'aimais bien le jaune, mais parce que c'était la couleur préférée de ma grand-mère et du coup, j'avais envie de faire pareil.
Oh, c'est trop mignon. Mais ouais, c'est assez rare que les gens aiment particulièrement le jaune, je trouve. J'en connais pas, je crois, particulièrement. Mais en fait, il y a une raison très culturelle au fait qu'elle soit pas très appréciée en Occident, c'est qu'en fait, c'est la couleur que porte Judas dans la religion chrétienne, et donc c'est devenu un peu la couleur de la traîtrise, quoi.
Ah. Il y a
Et ça n'a
aussi
pas
que
toujours.
les personnes blanches, souvent le jaune, ça leur va très mal au teint.
Ah! Donc on serait juste des haters. Non, mais ça fait sens. Ça fait sens parce que c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque avant que la religion chrétienne prenne le pas partout en Europe, dans la Rome antique, bah, c'était une couleur très appréciée. Mais bon, enfin, voilà, à Rome, on n'a pas le même teint qu'en Norvège. Donc j'imagine que ça donnait pas pareil. Et puis ça dépend des jaunes
Oui.
aussi. Mais oui, du coup, c'était une couleur qui était pas mal portée. Mais de manière générale, même un peu partout, en fait, avant que la chrétienté s'impose, ça symbolisait généralement le soleil, la joie, la lumière, la vie. Donc c'était une couleur qui était plutôt positive. Et en magie, c'est le cas, parce que elle renvoie à l'air, l'élément qui symbolise tout ce qui est l'extériorité, donc comment on se sociabilise, réfléchir à des choses, les partager, la joie, l'énergie et tout. Donc en magie, tu vas utiliser des objets jaunes pour symboliser tout ça, mais aussi tout ce qui est l'assurance, la confiance en soi, l'apprentissage, la curiosité, la communication, la créativité, tout ça. C'est une couleur qui est solaire. Donc on s'en sert en gros pour rayonner, aller vers les autres et avoir un impact positif sur autrui.
J'ai l'impression aussi que souvent on préfère le doré au jaune pour
Ouais, c'est vrai.
exprimer beaucoup de choses que le jaune pourrait exprimer. Parce que c'est plus riche.
Chic. Parce que ça brille et je pense que aussi nous les humains, on est un peu des pies. On est attirés par tout ce
Oui.
qui reflète la
Je suis
lumière.
complètement d'accord avec ça.
Moi
J'ai vu tous les trucs de moi, des paillettes, ça me ça m'attire.
Ah, c'est hypnotisant.
Oui.
Et il y a une autre couleur qui hypnotise depuis toujours, c'est le rouge. Vraiment la couleur qui symbolise genre des choses hyper extrêmes. C'est associé à tout ce qui est sulfureux. Parce que, encore une fois, avec l'avènement de la religion chrétienne, ça a été associé à la couleur de la chair, à la couleur du péché, que ce soit le sexe ou la violence. Donc, je pense par là à l'exemple du film Le Village. Tu l'as vu ou pas?
Non, je crois pas. Ça me dit
Ah,
quelque
faut que
chose, le
tu le
nom.
vois. C'est de Night M. Shyamalan, le réalisateur du
Ouais.
Sixième Sens. Il est trop bien ce
Ouais.
film. Quand tu le verras, je veux bien que tu me dises ce que t'en as pensé. Mais dedans,
Ok.
sans rien spoiler, ça se passe dans un village donc où le rouge est une couleur proscrite et littéralement appelée la mauvaise couleur. Ils disent pas j'ai touché du rouge aujourd'hui, ils disent tu touches la mauvaise couleur, enterre ces baies. Voilà. Du coup, le rouge, ça signifie donc le sang, l'amour, le luxe aussi, parce qu'il y a
La
le
passion.
dessous. La passion. Il y a les tapis rouges, il y a le dessous des chaussures Louboutin, donc c'est vraiment devenu synonyme d'argent aussi, parce que c'était aussi
Moi,
un pigment qui n'était pas facile à faire.
quand tu me dis rouge, je pense à Kate Bush dans son clip de Wondering. Attends, c'est quand?
Wuthering Heights.
Wuthering Heights. Je vois Kate Bush dans sa robe avec sa chorégraphie improbable. Et ça a
Bah,
un côté très magique.
le personnage de Cathy dans Les Hauts de Hurlevent, elle est très. C'est une personne totalement passionnée, romantique et tout, donc le rouge, c'est. Ça lui va bien.
Ouais.
Et en plus, je crois qu'elle est morte en crachant un peu ses poumons, donc il y a un thème qui se
Il y a aussi
dégage.
le. Puis c'est quelqu'un de très, ouais, de très passionné. Tu mettrais
Bah,
pas
c'est
du
ça.
rouge sur un personnage calme.
Exactement. Et pourquoi? Parce que le rouge, c'est associé au feu. Donc, à quelque chose de passionnel, encore une fois. Mais aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode qu'on avait fait sur Beltane, la fête, le sabbat qui a lieu au mois de mai, qui est le sabbat un peu de la passion. Et l'idée, c'est que le feu, ça représente aussi bien ce qui peut créer que ce qui peut détruire.
Oui.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu une ambivalence avec le rouge. Donc
OK.
en magie, c'est une couleur dont on se sert pour tout ce qui est passage à l'action, désir, volonté, persévérance, notre vitalité, instinct de survie, tout ça. Donc si vous connaissez un peu en astrologie, que des trucs de bélier. Ensuite,
Casse dédié au bélier.
casse dédié à tous les béliers qui nous écoutent. Ensuite, on va passer à une couleur beaucoup plus calme, qui est le bleu. Il
La
est
couleur que
utilisé.
tout le monde aime bien.
Oui, c'est ma couleur préférée aussi, depuis toujours. C'est vraiment le bleu est partout. Il est devenu. Ce qu'explique le petit livre des couleurs, c'est que c'est devenu une couleur hyper consensuelle. C'est la couleur préférée des Français, c'est aussi la couleur préférée des Européens. Coucou, le drapeau de l'Union européenne, qui est bleu. Et pour cause, c'est une couleur qui rappelle le ciel, qui rappelle la mer. Ah, j'ai écrit la mer M-E-R-E. C'est mignon. Et c'est une
C'est la
couleur
couleur
qui, au fur
préférée
et à
de ma
mesure.
mère, donc ça se
Bah,
tient.
tu vois. C'est devenu synonyme d'harmonie, de paix, de patience, de sincérité, de communication. C'est une couleur qui est censée être principalement positive, en fait. Tu vois pas de signification négative du bleu.
Typiquement, moi je bosse dans la communication justement, et quand je fais des trucs un peu en graphisme, que je sais qu'ils vont être pour le grand public, j'utilise très souvent du bleu parce que je sais que ça plaît universellement.
Mmh.
Et que, alors que dans la charte graphique de là où je travaille, il y a aussi un très beau rouge pétant, mais je sais que les gens ont plus du mal avec le rouge.
Mais c'est un peu plus autoritaire le rouge, tu vois. C'est
ça,
la couleur avec laquelle la maîtresse corrige.
C'est ça, c'est comme mon objectif, c'est que les gens viennent aux événements et qu'ils viennent se renseigner sur l'assaut, ben, je veux pas leur faire peur.
Mais je comprends. Mais le bleu, c'est un peu ce truc, je pense que c'est apaisant parce que vraiment, c'est la couleur de quand tu regardes la mer et qu'il fait beau. Que la mer se confond avec le ciel, t'as l'impression que genre, l'infini des possibilités est devant toi, et que tout est possible, et que l'horizon ne termine jamais. C'est la couleur, pour moi, de l'infini et l'au-delà, quoi.
Et ce qui est assez marrant, c'est que pourtant, sur les écrans, c'est la lumière bleue qui est responsable de la fatigue des yeux.
Eh oui, mais c'est parce que c'est la couleur du matin, le bleu.
Mm.
C'est la couleur de l'aurore. C'est fait pour nous réveiller, mais pas pour nous endormir. D'ailleurs, je vais baisser la luminosité de mon ordinateur. Et en magie, justement, on utilise le bleu pour tout ce qui est en rapport avec le calme, la plénitude, le bonheur, mais aussi pour booster sa confiance en soi, pour aider à communiquer correctement, parce que c'est aussi la couleur de la communication. Et puisque c'est la couleur qui symbolise l'élément eau, donc l'eau, c'est transparent. Ça symbolise aussi la sincérité, l'honnêteté, tout ce qui a trait à révéler les choses, à montrer la vérité. Donc, encore une fois, le bleu, bah, 10 sur 10, hein, vraiment. Excellente couleur, bravo. Du coup, je vais passer.
Justement, moi, je trouve que c'est un peu trop neutre, le bleu.
Ah ouais, t'es tu comme vois, ça. Toi.
Quand les gens me disent que leur couleur préférée, c'est le bleu, j'apprends rien sur eux.
Hmm. Ou alors, tu pourrais leur demander pourquoi.
Ouais. Ah, c'est vrai que généralement, je m'arrête à pas intéressant.
C'est vraiment un côté hyper uranien. C'est fou. Mais moi, le bleu, c'est ma couleur préférée parce que c'est la seule couleur dont j'aime absolument toutes les teintes.
Ouais, c'est vrai qu'elle n'a pas une mauvaise teinte, le bleu.
Ouais, il n'y en a pas une que je trouve pas ouf. Mm. Alors que j'adore le vert, par exemple, mais j'aime pas tous les verts. À méditer, donc. alors ensuite, les autres couleurs, celles qui sont pas primaires, je vais passer un tout petit peu moins de temps dessus, parce qu'elles sont moins analysées généralement, donc j'ai moins de choses dessus. On a le blanc, qui est la somme de toutes les couleurs, donc
c'est
au-delà...
Pas une couleur.
C'est pas une vraie couleur, c'est toutes les couleurs en même temps. Donc, au-delà de symboliser la pureté, la vérité, la paix, en Occident, en magie, elle prend en fait le rôle de couleur couteau suisse, c'est-à-dire que tous les sorts et rituels le disent, ici, il vous faut telle ou telle bougie de telle couleur que vous n'avez pas, le blanc, ça peut toutes les remplacer. Pratique.
Okay.
Et il y a aussi le fait que le blanc symbolise les recommencements, les renouveaux, les débuts en tout cas.
La page blanche.
La page blanche sur laquelle on écrit, exactement. Bien vu. Et le noir, au contraire, ça représente les fins en Occident. C'est la couleur du deuil chez nous. Mais c'est aussi une couleur qui représente la fin d'un événement, d'un cycle en magie. Et cette absence de couleur, du coup, c'est un peu comme un vide qui attend d'être rempli. En gros, il y a le vent, c'est ce qu'il y a avant le blanc, quoi. C'est
la couleur de la
nuit. Imaginez ce qui se passe avant le Big Bang, quoi. Bon,
c'est pour ça aussi, du coup, que c'est extrêmement associé à la sorcellerie. Parce que c'est la couleur des choses qui font peur.
Oui, c'est la couleur de la nuit, du mystère, de l'occulte, de la peur, tout simplement. Parce que la nuit, c'est quand même le truc qui, universellement, fait flipper les humains pour tout ce qui est dedans. Et puis, il y en a le gris, qui en magie symbolise, du coup, le passage et la transition, puisqu'il n'est ni blanc, ni noir. Je trouve ça beau. Le gris, ça marche aussi avec l'argenté. L'argenté et le gris sont mis ensemble. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les dérivés du jaune et du rouge, que sont les oranges, les roses, les ocres, l'or. Parce que, du coup, c'est symbolisé, c'est des couleurs qui sont en rapport avec le feu. Donc le charme, la confiance en soi, le charisme, c'est la créativité. Et bien sûr, le rose, universellement en Occident, la couleur de l'amour. Et donc, ça prédomine dans tous les sorts qui sont liés à cette thématique. Et puis, il y a le marron, qui lui est un peu à part, puisque certes, c'est une couleur chaude, mais c'est associé à l'élément terre, du coup, parce que c'est la couleur de la terre, qui symbolise, lui, la stabilité, le calme, l'équilibre, la concentration, les choses qui sont un peu plus carrées. Ça, ouais. Ça me parle.
Genre le tronc d'un arbre, truc solide.
Voilà. Il est solide, il est là, son écorce, elle est rugueuse, on sait qu'elle sert à quelque chose. Les fourmis marchent dessus, c'est que c'est bon signe. C'est OK. Ensuite, en rapport avec la terre, toujours, on a le vert qui a un peu un statut particulier parce qu'il est le mix d'une couleur chaude qui est le jaune et d'une couleur froide qui est le bleu. Et lui, il est du coup principalement associé à la couleur de la faune, de la flore, pardon, de la végétation, donc l'abondance, la fertilité, le succès, la sérénité, la chance, l'espoir. Et aussi le fait qu'il ne faut pas en porter si vous faites du théâtre, car apparemment, c'est, ça porte malheur.
Ah, le vert, c'est aussi, y a aussi toute une dimension négative avec, la peur verte, oui, la maladie.
Ouais. Parce que c'est la couleur des cadavres.
Je dis ça parce que Jordan, notre invité du dernier épisode, avait fait une conférence sur la couleur verte et j'y étais allée.
Ah, génial. Ah oui, en fait, s'il y a une teinte de bleu qui est considérée comme négative, c'est ce qu'on appelait avant le glauque. Qui est un bleu-vert, parce qu'en fait, c'est un peu la couleur qu'on prend quand on est décédé.
Glauque, ça vient d'une couleur ?
Oui, glauque, c'est le nom d'une couleur, figure-toi. C'est,
par exemple, je me sens instruite.
Dans les romans un peu romantiques du 19e, généralement, l'héroïne principale, elle a les cheveux noirs de jais, le teint pâle, parce qu'évidemment, elle est tuberculeuse, sinon elle n'est pas belle. Et elle a les yeux verts, elle a les yeux glauques. C'était une couleur... Voilà.
Ah, mais je savais pas, c'est trop bien. J'adore cette information.
Et je me suis rendu compte que c'était la couleur qui prédomine chez moi. C'est-à-dire que j'ai mon canapé qui est glauque. Et j'ai le mur derrière moi qui est glauque. Et j'ai les yeux glauques. Voilà. Je suis une personne
glauque. Ça te va bien pour une sorcière.
Merci. Et donc, du coup, j'imagine que tu dois être en impatience totale que je parle d'une certaine couleur. Elle en peut plus. Du coup, ici, je vais mettre le violet et l'indigo ensemble, parce que pour moi, l'indigo, c'est pas bleu, c'est plutôt violet. Je sens qu'on va avoir des débats dans les commentaires, mais je maintiens. Pour moi, le bleu, quand il y a du rouge dedans, c'est plus du bleu. Du coup, je mets dans cette même catégorie les deux. Et en France, j'ai remarqué qu'il y avait deux catégories encore de personnes à ce propos-là. Il y a des gens qui adorent le violet, et qui sont généralement des femmes, ouais. J'ai remarqué, et des gens qui détestent le violet.
Ah ouais ?
Et généralement, j'ai quand même peu de personnes que je connais qui aiment le violet.
Moi, j'ai remarqué cette clivance, mais pas genrée.
Ah !
Mais beaucoup de femmes qui n'aiment pas le violet.
Je connais que
mais
des
c'est vraiment, mais comme tu dis, c'est très clivant. C'est genre, c'est pas je m'en fous, c'est je déteste cette couleur.
Ouais, il y a vraiment une volonté d'affirmer qu'on déteste le violet.
Bah après, c'est aussi une opposition du fait que moi, je milite pour le violet et que j'en fous partout. Donc, je pense que les gens, au bout d'un moment, essayent de me calmer.
C'est ton entourage qui réagit à toi. Mais oui, c'est pas une couleur qui fait l'unanimité du tout. Et selon le petit livre des couleurs, il s'agit en fait du fait qu'au Moyen-Âge, c'était une couleur qu'on associait au noir. C'était ce qu'on appelait un demi-noir, puisque j'imagine que quand ils essayaient de faire du gris, peut-être que ça merdait un peu avec la teinte naturelle du tissu comme le lin, et que ça donnait une sorte de violet. Et c'était ce qu'on associe pour eux au, je cite, « demi-deuil », le deuil qui dure dans le temps. Et ça, je l'ai lu aussi dans le dictionnaire des symboles. Donc c'était pas une couleur très bien vue. Et là-dessus, je vais te lire un extrait qui va te révolter et qui va révolter toutes les personnes qui aiment le violet, qui vient donc du petit livre des couleurs qui n'était pas favorable au violet, je pense. Pour violet, on disait en latin médiéval « subnigé », demi-noir. Il s'est dit identifier logiquement en demi-deuil celui qui s'éloigne dans le temps. Il évoque la vieillesse féminine, douce comme les reflets mauves des cheveux des dames âgées. petit enfant, lorsque je faisais un cadeau à ma grand-mère, je pensais qu'il devait être dans la gamme des violets. C'est vrai que c'est vraiment une couleur qui est marquée pour les vieilles dames. Bref.
C'est
Le
vrai.
violet est la couleur liturgique de la pénitence, de l'Avent et du Carême. Il est devenu tardivement la couleur des évêques, ce qui est assez excentrique. Peu fréquent dans la nature et assez laid quand il est fabriqué, il est, selon les enquêtes d'opinion, la couleur la plus détestée après le brun. Ce n'est pas une vraie couleur, disent généralement les enfants. Au cours de la dernière
Oh.
décennie, ce livre a été écrit en 2005, donc dernière décennie c'était 95. On a abusé des mauves saturées et des grenats violacés sur les tissus, fluo par-dessus le marché, point d'exclamation. Le violet est devenu très vulgaire.
Je pense que clairement, il est dans la team. J'aime pas le violet. Je pense pas
Il y a eu
que.
un clash du violet dans ce livre.
Mais c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une petite vidéo qui parlait justement de la couleur violette et dans la peinture et qui disait que cette couleur a toujours été très clivante dans les milieux artistiques
Ah, c'est
et
trop intéressant.
qu'elle était très très peu utilisée dans la peinture déjà parce que pendant très longtemps c'était très compliqué de synthétiser du violet et c'était réservé
Ouais.
à la royauté et donc clairement tu vas pas faire de la peinture avec du violet.
Oui.
Et quand c'est les impressionnistes, en particulier Monet, qui a commencé à utiliser du violet quand il a fait par exemple ses séries de la cathédrale de Rouen. Et il y avait toute une partie du coup, enfin des artistes de l'époque qui disaient mais quelle horreur, pourquoi il met du violet dans ses toiles? Et toute une autre partie qui disait mais c'est du génie et qui a lancé le mouvement d'utiliser du violet dans la peinture.
Incroyable quand même, parce que c'est vrai que quand j'y pense et que je m'imagine au musée, et c'est vrai que le violet, c'est pas
C'est
représenté
pas très
du tout.
courant, ouais. Puis le violet qu'il utilise, lui, c'est vraiment du lavande Parme, quoi. Mais du
C'est
coup,
du
c'est
violet.
carrément la couleur de la Discorde, le violet, hein.
Oui, vraiment. Mais du coup, c'est la couleur qui représente le mieux la magie et la sorcellerie. C'est très
Oui.
ancré, c'est partout, et je pense que c'est aussi un peu générationnel parce que. Je pense que ça a pas mal joué le marketing des séries comme Charmed, qui sont très
Ouais.
violettes. C'est même la couleur du ministère de la magie dans Harry Potter. Et dans Harry Potter, il y a vraiment une prédominance du violet pour tout ce qui est magique. Et c'est vrai que même moi, quand je vois une certaine teinte de violet, pour moi, dans ma tête, j'appelle ça un violet ministère de la magie. Les gens qui savent, savent. Mais fait intéressant aussi, c'est devenu la couleur du féminisme, en tout cas le dernier siècle. Puisque les suffragettes l'ont utilisé dans leur flyer, même si je pense qu'on ne disait pas des flyers à l'époque, il est utilisé dans la lutte des violences faites aux femmes aujourd'hui, puisque trigger warning, dans violet il y a viol, et donc en fait sur les réseaux sociaux, comme il y a pas mal d'algorithmes qui
Ah, c'est pour
bannissent ce
ça.
mot, ils utilisent souvent un emoji violet pour éviter de dire le
Ah,
mot, tout simplement.
je ne savais pas.
Et ben
Par
écoute.
contre, du coup, à la manifestation du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes, il conseillait de venir habillée en violet. Je suis venue avec le total look. J'étais
Évidemment.
limite plus contente de pouvoir faire un défilé en violet que d'aller manifester pour défendre les
Alors
droits des
que je me
femmes.
souviens que le jour où j'étais à cette manif, moi, j'avais dû chercher dans mon armoire et j'avais trouvé une écharpe avec du violet dessus. Mais je te rassure, depuis, j'ai deux pulls violets. Tu m'as un peu influencée.
Ah, je suis heureuse.
Même s'il y a un des deux pulls est plutôt lavande et je pense que t'approuverais pas. Bref, c'est devenu la couleur du féminisme. Pour preuve, par exemple, si vous avez déjà vu aux éditions Point, ils ont une collection de livres féministes et toute la collection est violette. Tiens, et c'est vraiment un violet ministère de la magie pour le coup. Et enfin, puisque en fait, c'est un mélange de rouge, donc aussi du rose et du bleu, le violet c'est un peu la couleur qui réunit, qui parle de non-binarité des genres et donc elle est très plébiscitée dans la culture, dans la communauté queer. C'est une couleur qui réunit tout court. Et en magie, elle représente tout ce qui est le mysticisme, les pouvoirs psychiques, la spiritualité, le contact avec les esprits, le pouvoir, la sagesse, l'inspiration, l'intuition. On s'en sert pour la méditation, pour briser des mauvaises habitudes, pour virer des énergies négatives, canaliser des émotions désagréables, pour se connecter voilà, à tout ce qui est spirituel. Et dans le dictionnaire des symboles, il y a un passage très intéressant sur le violet. Je vous conseille vraiment, si vous aimez la symbolique, le dictionnaire des symboles, il est super complet, et ne serait-ce que juste les couleurs, parfois il y a plusieurs pages sur le vert, par exemple. Et donc, c'est écrit dedans qu'on considère le violet en général comme le symbole de l'alchimie. Et qu'il serait. Elle signifierait le passage printanier de la mort. Ah non, attends, ça c'est le vert. Le violet étant la gueule qui avale et éteint la lumière, tandis que le vert est la gueule qui rejette et rallume la lumière. Donc en gros, le violet, c'est la couleur de l'automne pour eux. On comprend dès lors pourquoi le violet est la couleur du secret. Derrière lui va s'accomplir l'invisible mystère de la réincarnation, ou tout au moins de la transformation. Ça en jette quand même un petit peu. Je porte un autre regard sur les Purple Ladies maintenant. Du coup, j'ai tenu à faire un petit peu cet inventaire rapide, parce qu'on peut y passer des heures. Il y a des livres entiers sur chaque couleur. Parce que c'est symbolique, elles sont hyper présentes dans tous les ésotérismes. Il suffit en fait de connaître la symbolique de la couleur pour s'y connaître en lithothérapie, par exemple. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode où on parle de
Et oui.
lithothérapie, lithothérapie Stonehenge, je crois qu'il s'appelait comme ça,
Je crois oui.
on avait déjà remarqué que la couleur des pierres, elle influençait beaucoup, beaucoup leur symbolique. Par exemple, tu as l'aigu marine, qui est une pierre turquoise, qui est bleue, et elle signifie le calme, la communication, la sérénité. Et l'obsidienne, au contraire, c'est une pierre noire, elle est préconisée pour se protéger des énergies négatives. Tout ce qui est pierre jaune ou orange, ça va être des choses pour la créativité, pour l'énergie. C'est hyper cliché, en fin de compte. Typiquement, la couleur, la pierre qui est la plus plébiscitée, je pense, en magie, c'est l'améthyste. Et c'est une pierre qui est censée nous connecter à nos pouvoirs magiques et tout. Et elle est violette. Donc tout ce qui est pierre violette, ça marche. Ça marche bien. Et ça vaut aussi pour tout le reste, les bougies donc dans les rituels, les couleurs des objets à réunir pour former un petit autel, par exemple, pour tel ou tel sabbat. Exemple, en février a lieu le sabbat d'Imbolc, qui symbolise le recommencement, l'arrivée de la lumière. Et ben, le thème, c'est le blanc. Encore une fois, c'est les débuts. La page blanche à écrire. Et c'est en gros, en magie ou en spiritualité, dès que tu connais la symbolique des couleurs, la symbolique des quatre éléments, la symbolique des chiffres aussi, des planètes, tu peux faire des liens entre toutes les disciplines, si tant est qu'elles soient occidentales, parce que par exemple, pour les chakras, qui viennent de la culture védique en Inde, ça marche pas, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes symboliques des couleurs. Donc en fait, si tu lis la symbolique des chakras en rapport avec leurs couleurs, ça rend pas la même chose qu'en
Ça
Occident,
marche
quoi.
pas, ouais.
Donc morale de cette histoire, tout est encore une question de symbole. Et ça, les marketeurs l'ont très bien compris, puisque la couleur s'est utilisée depuis toujours pour évoquer des valeurs instantanément dans la tête des gens, donc aussi pour vendre des choses. Même au-delà de vendre des choses, c'est typiquement les drapeaux des pays, les drapeaux des partis politiques, c'est toujours des couleurs très
Ouais, c'est ce
fortes.
que je disais tout à l'heure en communication, tu c'est jamais anodin les couleurs que tu choisis, quoi, parce que tout de
Ouais.
suite
Ça
ça
parle
véhicule quelque chose.
direct à l'inconscient, quoi. T'y penses même pas, et pour toi, tu sais très bien que le rouge, ça t'évoque telle et telle chose. Donc c'est très bien pour guider les consommateurs dans les magasins. Typiquement, les promotions, elles soient en rouge ou en jaune. Les produits écolos ou qui se disent écolos soient en vert. Les produits
Ils veulent
brandés
se
pour les
faire
femmes
croire.
soient roses. Voilà. Ça marche aussi donc particulièrement bien pour le retour de hype de la sorcellerie, puisque vous allez dans n'importe quel, je vous mets au défi d'aller dans le rayon ésotérique de la librairie du coin et de regarder les couvertures des livres. C'est vraiment flagrant. C'est du bleu, souvent foncé, indigo, violet, jusqu'à parme, violet, pastel, et rose. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est
Pour les
marketé
cibler
pour
pour
les
les
femmes,
femmes.
pour cibler les femmes, exactement. Donc là, je vous ai parlé de consommation, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. Hein. Il y a plein de domaines dans lesquels les couleurs ont un pouvoir qui peut servir. Un pouvoir, genre littéralement, que vous considériez ça comme magique ou culturel ou psychologique, c'est le design, par exemple. Dans la décoration intérieure, la théorie des couleurs, c'est très utilisé. Tous les décorateurs intérieurs te disent que dans une chambre, on privilégie les bleus, les ocres, les roses, parce que c'est doux. Au contraire, dans des cuisines, on va mettre des choses un peu plus chaleureuse, comme les jaunes, les oranges. Dans les salons, ils veulent te mettre du vert parce qu'il y a un côté Surtout dans les appartements, vu que t'as pas de jardin, on va vouloir te mettre un petit peu de nature. Bref, et tout ça pour dire que je voulais finir sur une ouverture. Bon, je vais peut-être un peu loin,
Mettez de la
mais
couleur chez vous.
mettez de la couleur chez vous, c'est important la couleur. Moi, ça
Ouais.
m'angoisse, par exemple,
Mais ça, ouais,
les Kardashians, leur
moi je
maison.
trouve ça.
T'as déjà vu? Elle est
Non,
blanche.
mais j'imagine que ça doit être comme beaucoup de maisons de gens riches, très blancs et
C'est un
très
hôpital.
noirs et blancs, quoi. Et ouais,
Oui.
moi ça me déprime. Dans mon appart, comme je suis locataire, j'ai eu la flemme de peindre parce que je sais qu'il faudra que je repeigne en blanc le jour où je pars. Et ça me manque un peu. Et notamment chez mes parents, quand j'étais ado, j'avais peint un mur de ma chambre en violet, d'un violet que j'aime bien, donc un violet
Évidemment.
foncé électrique. Et je passais beaucoup de temps à fixer mon mur. Parce qu'il y a un truc de. Non, mais c'est quand t'aimes bien une couleur et que tu la fixes longtemps, bah, c'est comme tu disais,
Ouais.
t'as un côté méditation, t'as un.
C'est hypnotique en fait.
Je sais pas, c'est comme quand tu regardes longtemps une œuvre d'art et que t'es pris dans le truc, bah là c'est pareil, c'est une couleur que j'aime bien et du coup, regarder le truc en écoutant de la musique, c'était très agréable.
Ton cerveau recevait tellement de dopamine que impossible de quitter les yeux
Exactement.
le mur. Ah, hilarant. Je passais beaucoup de temps à fixer le
Voilà.
mur.
Mettez de la couleur dans vos vies. Achetez des
Et
vêtements
fixez
colorés.
votre mur. C'est
Et
vrai.
fixez
Mais en plus,
votre mur, sauf s'il est blanc.
il y a des études qui prouvent que pour combattre les états déprimants ou déprimés ou dépressifs, c'est important d'avoir des couleurs autour de soi, que ça fait du bien, vraiment, et que ça marche vraiment. Donc du coup, j'essaye de ne pas acheter que des trucs... Parce qu'en fait, c'est ça qui est emmerdant. Encore une fois, je digresse. C'est que j'ai envie, par exemple, d'avoir des vêtements que je puisse garder très longtemps, dont je me lasse pas, et qui soient pas difficiles à laver. Par exemple, s'il y a une tache, que ce soit pas relou. Et donc généralement, j'ai beaucoup de t-shirts noirs parce que je sais qu'ils vont me tenir 20 ans. Mais et du coup, oui, c'est pas joyeux.
Ouais. Moi, j'ai des pantalons arc-en-ciel.
Ah ouais, toi t'es pas dans le pratico-pratique. Moi, je suis une personne
C'est-à-dire
flemmarde,
que.
j'ai pas envie de penser à ce que je vais mettre. Il faut que tout aille ensemble, sinon ça m'emmerde.
Ouais, mais moi, je crois En fait, c'est de voir des gens porter de la couleur et que ça m'a procuré du bonheur de les voir que je me suis dit, bah, moi aussi, je veux ces vêtements qui procurent du bonheur.
C'est beau.
Ouais.
C'est hyper beau.
Voilà. Et en plus, quand je mets mon pantalon arc-en-ciel, souvent je me prends des commentaires de gens qui disent que c'est trop bien. Et du coup, ça fait aussi du bien au moral.
C'est vrai que maintenant que tu me le dis, les fois où je mets de la couleur, tout le monde me dit, Ah, ça te va
Ouais,
bien et tout, mais en fait,
ça te
je
va
sais juste
bien,
qu'ils
c'est
sont
joli.
super contents de voir de la
Après,
couleur.
comme toujours, t'as des gros nazes qui te disent tu vas au cirque, machin. Mais
Ah.
voilà.
Et d'ailleurs, pourquoi pas?
Bah
En
oui.
fait, c'est quoi le problème avec le
Bah, moi,
cirque?
je l'assume
Depuis
totalement.
qu'ils ont
Bah,
interdit les
une
animaux.
fois, j'ai mon pantalon arc-en-ciel. Une fois, j'ai failli le mettre au travail l'été. On fait des animations au parc à côté d'une grande toile de cirque multicolore. Et je me suis dit, je ne vais quand même pas être habillée pareil que la
Ah
toile de
si,
cirque.
ça aurait été l'occasion.
Non, je suis pas aussi aventurière que ça. Je
Non,
l'ai
non.
pas
Ce qu'il fallait
assumé
te dire,
jusqu'au
c'était
bout.
que c'était le chapiteau qui t'a copié, pas l'inverse.
Je suis déguisée en chapiteau de cirque.
J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? On digresse, et j'avais
Ouais.
fait une conclusion. Moi, vous savez, on m'a appris au lycée que quand on fait une conclusion, on ouvre la conversation. Donc, je vais
Ah oui,
l'ouvrir. Je
ouvre.
vais l'ouvrir un petit peu loin, mais j'ouvre.
Oula.
Bon, bah ça va, en vrai ça va, on reste dans le thème. Donc je voulais finir sur le fait que les couleurs c'est aussi une question de point de vue et de perception parce que déjà, scientifiquement, tous les êtres humains ne perçoivent pas les couleurs exactement de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes cônes et les mêmes bâtonnets dans nos yeux exactement au même nombre précis. Mais en plus de ça, il y a le fait que bah, quand t'es pas dans la même culture, tu vois pas les couleurs de la même façon, littéralement, je sais pas si... Quand bien même t'es pas dans le même environnement, tu vois. Si t'habites dans la jungle et que tu vois du vert à longueur de journée, bah il y a moyen que ça altère légèrement ta perception des couleurs. Pareil si t'habites dans un endroit où c'est
Ça
blanc parce qu'il y a de la
t'évoque
neige
pas les mêmes
partout.
choses.
Oui, voilà, en plus de ça. Et tu vas pas voir les choses de la même manière. Donc, encore une fois, la magie, c'est aussi beaucoup une question de perception, de point de vue et de symboles. Mais il y a aussi le fait que, bah, y a des gens, par exemple, qui sont daltoniens, donc qui ne voient pas certaines couleurs et qui en voient d'autres autrement. Il y a des gens qui sont synesthètes. Tu vois ce que c'est ou pas?
Oui, c'est quand tu associes, bah, ça peut être une couleur, mais, enfin, quand tu associes un sens avec un autre.
Ouais.
Par exemple, tu vois du bleu et ça te donne un goût dans la bouche, ou
Oui,
tu
voilà.
vois du bleu et ça te fait penser à une chanson.
J'ai une
Ça, il y
copine
a
qui voit
beaucoup.
les lettres en couleur et les
On avait
chiffres.
des longs débats avec mes sœurs quand on achetait des affaires d'école et que genre le protège-cahier bleu, c'est pour les maths. Bah non, c'est pas pour les maths, c'est pour telle
Ah non,
matière. Bah
le
non.
bleu, c'est pas du tout pour les maths, je suis d'accord. Les maths, ça a toujours été jaune, en fait, Louise.
Ah bah moi c'était maths bleu.
Ah non, le bleu, c'est français. C'est
Je
poétique.
crois que j'avais aussi du bleu pour le français. Bah, au bout d'un moment, il y a tellement de matière que tu es obligé de doubler les.
Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et
Ouais,
du
ça
coup,
peut être des longs
t'associes
débats.
personnellement les couleurs à quelque chose. Moi, par exemple, c'est la musique. J'ai des playlists
Ouais.
thématiques, mais aussi colorimétriques.
Ok.
Et ça marche hyper bien.
Ok.
Et par rapport à ça, je voulais juste dire, j'ouvre encore une fois, hein, que dans bien des cultures, quand on a une différence de point de vue ou une rareté, qu'elle soit visible ou pas, je sais pas, imagine t'es albinos ou t'es daltonien, c'était souvent vu comme quelque chose d'un peu magique, que ce soit bien vu ou non. Et du coup, là, je pense à un de mes films préférés, qui est Rusty James de Francis Coppola, où dedans, le frère du personnage principal, qui est joué par Mickey Rourke, est un peu vu comme une espèce de grand sage, un peu fou, un peu bizarre, un peu sorcier à sa manière, et il est daltonien. Et du coup, tout le film est filmé en noir et blanc, sauf les poissons dans le film, puisque en fait, le film s'appelle à l'origine Rumblefish, les poissons combattants. Et du coup, cette espèce de... Bah, c'est ce qu'ils disent dans le film, en fait, cette différence de perception des choses lui donne une sorte de pouvoir. De voir les choses d'une manière que les autres ignorent. Et je trouvais ça hyper beau. Et je pense qu'on a tous un peu de magie dans notre point de vue. Et que c'est ça la magie. C'est ce que fait notre cerveau.
Wow. C'est beau.
Hashtag paix, amour et justice. Hashtag fin.
Je pense que tu auras une bonne note à ton exposé.
J'espère.
Bah, c'était extrêmement intéressant.
Bah, je suis contente.
Donc,
Ça m'a
n'hésitez
donné
pas à
envie
nous donner
d'acheter
de bonnes
10
idées.
livres après. C'est un petit peu embêtant. Voilà. C'était
On
bien.
fait les anecdotes?
Ah oui, les anecdotes. Vas-y.
C'est la partie des
Anecdotes.
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 Eh ben, figure-toi que j'ai une recommandation.
C'est pas vrai! Et moi j'en ai pas.
Ah.
Les rôles s'inversent.
C'est un livre. C'est
Oh!
un petit
Étonnant de la
roman.
part de Louise.
C'est un petit roman qui s'appelle La vie seule de Stella Benson. Stella
M'intéresse.
Benson, c'est une contemporaine à Virginia Woolf. D'ailleurs, elle se connaissait.
Ok.
Ça raconte. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. On suit plusieurs personnages, dont une sorcière qui vient bouleverser la vie des personnages qu'on va suivre. C'est complètement loufoque. C'est assez difficile de raconter l'histoire parce que en fait, chaque chapitre vont être des petites histoires en elles-mêmes.
Ça,
Il n'y
c'est
a pas
cool.
vraiment une grande histoire continue. Et du coup, en fait, ce qui m'avait intéressé dans ce livre, c'était de lire une histoire de sorcière, mais pas contemporaine, parce que la plupart des romans que je lis sur les sorcières sont assez contemporains. Et c'était génial de cette version de la sorcière londonienne. Il y a tout un, comme en plus c'est pendant la guerre, il y a par exemple tout un chapitre où on voit une sorcière allemande en comparaison avec la sorcière anglaise.
Cool.
Ça s'appelle La vie seule parce qu'elles vivent dans une pension Pour femmes qui vivent seules, qu'elles ont appelé la vie seule, pour être entre elles, avec des règles complètement improbables sur le fait qu'elles n'ont pas le droit de parler entre elles, que c'est vraiment... on reste chacun dans notre chambre et on ne socialise pas. Et on,
c'est juste histoire d'être seules, mais ensemble.
C'est ça, mais vraiment, on ne se parle pas, quoi. Alors que dans les faits, elles se parlent tout le temps. Et y avait tout un chapitre... Je ne peux pas révéler, mais il y a un petit twist à la fin du chapitre que j'ai trouvé absolument génial. Du coup, c'est un livre que je recommande grandement.
Ah, tu utilises bien.
C'est un style d'écriture pas très moderne, forcément. Ouais. Mais comme chaque chapitre est une petite histoire différente, en fait, on peut lire chapitre par chapitre.
Ok.
Voilà, et c'est recommandé par Virginia Woolf, donc,
trop bien.
Donc ça a de la street cred. Et l'autrice, du coup, que je ne connaissais pas du tout, était une romancière britannique et aussi une femme très engagée dans le féminisme. C'était une suffragette, notamment. Et je n'avais jamais entendu parler d'elle.
J'avais entendu parler pas de son nom, mais du nom de son livre. Je ne savais pas du tout ce que c'était.
Eh ben, c'est peut-être parce que je te l'ai envoyé quand je l'ai acheté.
Non, je crois pas. Je crois que j'ai déjà entendu.
On avait entendu podcasts. Avant.
Ouais.
Et du coup, elle a écrit d'autres romans et je pense que je veux jeter un œil à ses autres romans.
Nous diras ce que t'en as pensé.
Ouais, en tout cas, je recommande La vie seule. En plus, le livre est très joli.
Ensemble sans se parler.
Le livre est très joli, il est bleu avec de l'argenté pour faire l'illustration de la couverture.
Donc intéressant ce choix de couleur.
Confère la conférence que tu viens de nous faire.
Ah, j'aime bien.
Mais oui, en soi.
J'ai conféré aujourd'hui.
Voilà, donc La vie seule de Stella Benson.
Je note. Eh bien, écoute, moi, ma recommandation... Alors, c'est pas une recommandation du tout. Moi, mon anecdote n'est pas une recommandation. Ah. J'ai tellement l'habitude que ce soit des recos. c'est juste qu'en fait, je me suis intéressée à l'astrogénéalogie pendant le mois qui précède. Parce que déjà, l'astrologie me passionne et j'aime bien la généalogie. Et en fait, il y a une. Je savais déjà, parce que j'ai fait une consultation d'astrogénéalogie de l'année dernière, que ça existait, cette discipline, mais j'avais jamais trop moi-même essayé de pratiquer. Et en fait, ça consiste à réunir les thèmes astro de personnes dans tes ancêtres, les analyser et trouver des schémas qui se répètent, des patterns, comme des liens comme ça, de génération en génération. Et c'est super sympa à faire parce que tes ancêtres d'il y a 4 générations, tu les connais pas et il n'y a plus personne autour de toi pour savoir quels étaient leur caractère et tout. Et tu ne peux qu'imaginer. Et je trouve que essayer de l'imaginer avec l'astrologie, c'est hyper sympa déjà. Et quand tu trouves des liens, c'est très satisfaisant. Par exemple, je l'ai fait du coup avec des personnes de ma famille. Et j'ai appris que j'ai un placement astrologique qui est Jupiter en Vierge et qui se répète en fait de génération en génération. Je pense que j'ai dû faire 9 thèmes astro et qu'on était 5 dedans à avoir ça. Sachant que c'est pas... En fait, Jupiter, c'est une planète qui fait tout le zodiaque en 12 ans. Donc, moins d'être vraiment né de la même génération d'il y a un an, c'est compliqué d'avoir Jupiter en Vierge, de rencontrer des gens qui ont le même truc que toi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était du coup, du côté de mon père, c'est une famille principalement de gens qui travaillaient la Terre. Et Jupiter, c'est un astre qui symbolise le fait de mettre un coup de projecteur sur quelque chose, parce que comme c'est la plus grande planète du système solaire, quand elle se trouve quelque part dans un thème astral, ça veut dire que c'est là qu'il faut regarder, quoi.
Et la Vierge, c'est le signe de la fin d'été, des moissons, de l'agriculture, de tout ce qui est la culture de la terre, la végétation. Et je trouvais ça trop drôle que j'ai ça, que mon grand-père ait ça, que sa grand-mère ait ça, et que ce soit un schéma récurrent dans ma famille, soit d'être vierge, soit d'avoir Jupiter en vierge, et tout. Et je trouve que c'est plutôt mignon, parce que ça te permet d'essayer de... Toi, t'as l'impression d'avoir un lien avec des gens sans qui tu ne serais pas là, mais que tu ne connaîtras jamais de ta vie, tu sais pas quel est le ton de leur voix, ni quel est leur plat préféré. Donc voilà, si jamais vous aimez bien l'astrologie, que vous aimez bien la généalogie, essayez de faire le thème astral de vos arrière-arrière-grands-parents, c'est drôle.
C'était une bonne activité du dimanche.
Ouais. Vraiment. Après, c'est pas très précis, parce que tu peux pas avoir l'ascendant, puisque les gens d'il y a 3 générations, ils n'étaient pas à l'hôpital, donc ils avaient pas l'heure écrite de la naissance.
Certes. Eh bien, encore un épisode rondement mené.
Ouais. C'est une affaire qui roule.
Oh. Du coup, on se donne rendez-vous dans 2 mois.
C'est donner rendez-vous dans 2 mois. Pas le même jour, pas la même heure.
Et pour parler de pas la même chose, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Jean-Jacques Goldman serait pas fier de nous. Mais je pense que Michael Goldman serait fier de nous.
C'est ceux qui regardent la Star Academy.
C'est son fils et c'est le directeur de la Star Academy.
Ok.
Et j'ai un petit crush sur Michael Goldman s'il nous écoute. Je pense pas qu'il nous écoute.
Ah bah écoute.
On sait jamais. Peut-être
ou peut-être que quelqu'un qui le connaît écoute et
qui va
faire passer le message. Sur ce. Les mentions légales. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast favorites, mais aussi sur Twitter une fois tous les 6 mois, sur Facebook et sur Instagram.
Plus souvent sur Instagram, on va pas se mentir.
Voilà. Surtout que Twitter, depuis que Elon Musk l'a racheté, moi j'y vais vraiment plus du tout.
Ah oui, c'est vrai que maintenant ça s'appelle X.
X.
Parce que Elon Musk, c'est trop un X-Men.
Il voilà.
Ouf. Bref. C'est vraiment comme ça que j'imagine Elon Musk parler dans ma tête. Hein. Ouais. Et après, ça va s'appeler X.
Je suis le maître du monde.
Très peu de respect.
T'inquiète pas, il a très peu de respect pour nous.
De toute façon, il nous écoutera pas. Merci à Moon, Moon and Sun pour la musique et à Craig, notre ingé son, notre fidèle ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.